Philippe Mehanicus est né le 17 avril 1889 au numéro 50 de la Rappenburgstraße, l'une des principales artères du Jodenbuurt, le vieux quartier juif d'Amsterdam. Pas très loin se trouve l'orphelinat pour filles. Il est l'aîné de 8 garçons, dont 3 décéderont en bas âge. Son père, Elias, est chiffonnier. Bien que hollandaise, sa mère, Sarah Hobbes, est née en Angleterre où elle a travaillé dans le négoce du tabac. À un an près, ils ont le même âge, 25 ans. Et se marie le 8 novembre 1888. Sarah est déjà enceinte de 3 mois. Le couple survit dans une extrême pauvreté. L'insalubrité et la surpopulation des maisons ne permettent aucune intimité. En perpétuelle errance, ils auront jusqu'à 5 adresses différentes, peut-être plus. Au début des années 1900, ils s'installent Lange Hauptstraat. Au numéro 9, s'élève une grande synagogue. Petit à petit, le couple se sépare. Cela fait déjà longtemps que l'alcoolisme et l'addiction au jeu d'Elias ont eu raison du couple. Que le père ne s'occupe plus de ses fils. Philippe aura le souvenir de quelqu'un d'absent. Leur relation ne sera même pas mauvaise, elle sera inexistante. En 1902, Philippe a 12 ans. L'école élémentaire est finie. Sarah se tue à la tâche et sombre lentement dans la dépression. L'adolescent doit trouver un travail pour l'aider, elle et ses 5 frères ayant survécu. Dommage, pensent ses professeurs, Philippe est un bon élève. On le dit intelligent, vif, curieux de tout. Grâce à l'intervention du directeur de son établissement, Philippe trouve une place de coursier au quotidien social-démocrate Het Volk, le peuple, fondé en 1900. La même année, il entre au parti des jeunesses socialistes, des AIR, où en plus d'une initiation à la politique à travers la rédaction des tracts ou l'organisation des meetings, il bénéficie d'un complément gratuit d'éducation délivré dans des cours du soir. Philippe apprend vite. En plus de l'anglais transmis par sa mère, il commence à parler plusieurs langues, dont le français. Plus tard, il s'exprimera également couramment en allemand et en russe. Le petit coursier gagne rapidement des galons, devient correcteur d'épreuves en 1906 et se met à lire abondamment. Il n'a qu'une envie, trouver sa place. Studieux, persévérant, voire entêté, l'autodidacte se construit un destin en regardant loin. Ce qui frappe d'ailleurs dans son visage, ce sont ses yeux. À 17 ans, Philippe Mehanicus signe son premier article. Il est le plus jeune journaliste du Folk et en tire sûrement une grande fierté. On lui trouve un emploi dans l'administration du journal, mais son envie de découvrir le monde lui rend tout bureau trop étroit. Entre cette fin du 19e siècle et le début du 20e, les colonies néerlandaises des Indes orientales séduisent autant par leur dépaysement que par les opportunités qu'elles offrent à tout apprenti aventurier. Mehanicus est de ceux-là. À peine a-t-il commencé en septembre 1909 son service militaire, un internement forcé, selon ses dires, qu'il embarque pour le large. Une façon aussi d'échapper à cet apprentissage de la guerre. Lorsqu'éclatera celle de 14-18, la Hollande sera neutre et lui sera loin. L'autre, la terrible, viendra bien assez tôt, dans un peu moins de 40 ans. Le temps pour un enfant de devenir un adulte et pour cet adulte de se voir ravir ce droit d'être pleinement homme, en étant brutalement rabaissé au rang des sous-hommes. Son père et 4 de ses frères disparaîtront dans la machine à tuer du nazisme. Lui-même assistera, impuissant, au départ de certains. En 1910, Philippe Mehanicus part donc pour les îles avec un contrat de 6 ans en tant que secrétaire de rédaction du Sumatra Post. Juste avant d'embarquer, il s'est officiellement fiancé à Esther Wessel, fille d'un diamantaire rencontré dans les jeunesses socialistes et dont les origines sociales sont relativement aisées. C'est une petite brunette fine aux sourcils élégamment dessinés. Elle est l'aînée d'une famille de 6 enfants, 4 autres filles, dont 2 périront dans les camps, et 1 garçon. Tous 2 se marient par procuration le 21 juin 1913, puis elle rejoint Philippe à Medan. Le climat est extrêmement chaud et humide. Quand il ne pose pas tout en blanc auprès d'Esther, avec ou sans casque colonial à l'appui, Philippe travaille énormément. Après le Sumatra Post, il devient rédacteur en chef adjoint du journal des locomotives à Semarang. Ses articles sur la politique coloniale néerlandaise, comme sur la politique étrangère en général, lui valent une certaine reconnaissance. Et il observera de très près la révolution russe. Le 29 novembre 1918, Esther donne naissance à leur premier enfant, Rita. Mais le couple bat de l'aile. Esther s'ennuie peut-être. Et puis Philippe a changé. Ayant contracté le typhus dans les montagnes de Java, il est devenu irritable. Alors une fois rentré sur le continent et après avoir accouché de leur seconde fille, Julia, en juillet 1920, Esther quitte Philippe. Leur divorce est prononcé fin novembre 1924. Après un second et bref mariage, Esther traversera la guerre pour s'éteindre en 1980 à 93 ans. En 1925, Philippe épouse Annie Jonkman, une infirmière qui n'est pas juive, et lui donnera une troisième fille, Ruth, née en 1926. Mais ils divorceront 3 ans plus tard. À cette date, Philippe Mehanicus travaille depuis 6 ans déjà en tant que rédacteur en chef du département étranger de l'un des plus célèbres quotidiens néerlandais, l'Algemeen Handelsblad. Il voyage, il décrit, il rapporte. Entre 1929 et 1934, il se rend 4 fois en Union soviétique. En 1933, il est en Palestine, sur la trace des premiers émigrés juifs allemands. Philippe Mehanicus est minutieux, soucieux de retranscrire ce qu'il voit au détail près. Il prend beaucoup de notes et accumule les carnets qui sont autant d'ébauches de ses articles. À gauche, ce dont il ne faut pas oublier de parler, biffé au fur et à mesure que les pages de droite se remplissent de morceaux de phrases, souvent raturées, puis réécrites. Ses chroniques du Monde lui valent un large lectorat et font de lui, selon ses collègues, l'une des pierres angulaires du journal. De ses différents séjours, il publie en mars 1933 2 livres qui le rendront célèbre. Le premier sur l'URSS, Von Sichel and Hammer, la faucille et le marteau, dont la couverture originale emprunte au constructivisme russe. En octobre de la même année, il fait paraître un choix de ses articles sur la Palestine. Ein Volk baut sein Haus, un peuple construit sa maison. Il est sceptique quant à la coexistence entre Arabes et Juifs. Son regard trop perçant traverse ce qui est immédiatement perceptible. S'il est revenu enthousiaste de son premier voyage en URSS, pensant que cette nouvelle société d'hommes-frères pouvait fonctionner, un deuxième voyage a suffi pour qu'il déchante. Et puis, on n'a plus voulu de lui. Persona non grata au pays des Kolkhoz, du futur Goulag et du petit père des peuples. Les années 30, les voilà donc, avec cet orateur hurlant aux mises en scène grandioses dans la proche Allemagne. Un clown, un pitre sans avenir qui sera balayé d'un revers de main. Beaucoup veulent y croire. Mais Hanicus, lui, sait très bien ce qui est en train de se passer dans ce pays soudain mis au pas. Il a suivi chaque étape de la fulgurante ascension du parti nazi. Mais Hanicus est juif. Totalement assimilé, certes, mais juif quand même. En 1935, lors du référendum devant rattacher la Sahara au Reich, il était présent sur les lieux. 90% de pleine adhésion, 0% de rejet. Il s'est aventuré dans les Dolomites en 1938, Mussolini d'un côté, Hitler de l'autre. Ils ne sont pas pathétiques, ils sont effrayants. Mais Hanicus écrit. Il devient de plus en plus évident que les nationaux-socialistes allemands n'ont qu'un but, la destruction totale des Juifs. En 1939, il part se reposer en Suisse avec ses enfants et y rencontre une jeune pharmacienne hollandaise, Jo Hansius. Célibataire, elle habite Nimègue, une petite ville à l'est des Pays-Bas, près de la frontière allemande. Il parle de tout, de rien, de politique surtout. Mais Hanicus devrait rester en Suisse, mais c'est impossible. On ne peut pas demander aux témoins de ne pas témoigner. Philippe et Jo se connaissent à peine, mais elle lui propose de l'aider si la situation devient dangereuse. Elle fera tout ce qu'elle pourra, qu'il n'hésite pas. À Amsterdam, Philippe passe autant de temps qu'il peut avec ses 3 filles. C'est un père aimant qui leur raconte souvent des histoires le soir. L'une d'elles, Julia, le décrira comme un homme d'esprit, blagueur et passionné d'échecs. Mélomane, il les emmène souvent au prestigieux Concertgebouw, alors dirigé par Wilhelm Mengelberg. Mengelberg, l'immense chef d'orchestre, mais aussi l'ancien ami de Mahler qui voyait en lui presque un frère. Certes, il imposa son œuvre aux Pays-Bas, mais cessa de la jouer à la minute même où cela lui fut demandé. Mengelberg, le collaborateur, l'homme banni de 1945 et qui mourut en Suisse. Vers la fin des années 30, Philippe rencontre une pianiste, Olga Moskowski-Elias, qui a exactement le même âge que lui. Assez rapidement, ils vivent ensemble. 1 an et demi. Les tout derniers instants de paix. Olga sera gazée à Sobibor le 21 mai 1943. Le 10 mai 1940, l'armée allemande envahit les Pays-Bas. Le Reichskommissar qui va superviser le déroulement de la destruction systématique des Juifs hollandais n'est autre qu'Arthur Seyss-Inquart. À La Haye, il est en relation directe avec le chef suprême de la SS et de la police, Hans Albin Rauter. Tous deux sont autrichiens, ce qui n'est pas un hasard. Les Autrichiens ont la réputation d'être encore plus implacables que les Allemands dans l'exécution des ordres, lesquels viendront directement d'Himmler. La panique saisit les quelques 140 000 juifs néerlandais dont 80 000 habitent Amsterdam. Certes, ils ne représentent qu'un septième de la population, mais il est grand temps de partir. De fait, certains parviendront à acheter leur émigration. Malgré tout, entre 1939 et 1940, le nombre de suicides est multiplié par 3 dans la ville portuaire. On en compte environ 200 dans la semaine du 15 mai. Le 22 octobre 1940, l'édit définissant les Juifs est proclamé et les lois de Nuremberg se mettent en place petit à petit. Non sans rencontrer une réelle résistance des Néerlandais, offusqués du sort fait à la communauté juive. Le 22 février 1941, les Allemands bouclent le quartier juif d'Amsterdam et 300 personnes sont déportées vers Bergen-Belsen et Mauthausen. En août 1941, tous les avoirs juifs, dépôts bancaires, créances, titres et objets de valeur sont bloqués et confisqués. Plus question de partir. D'ailleurs, la situation géographique du pays ne rend pas l'évasion facile. On laisse à ceux qui n'ont pu s'enfuir la somme de 250 florins pour leur usage personnel. Le paradoxe de l'extermination des Juifs hollandais tient au fait que cette petite communauté peu nombreuse est parfaitement assimilée. On comptait 2500 fonctionnaires juifs dans le pays. Allait être l'une des plus touchées. Seuls 25% des Juifs hollandais devaient revenir des camps, ce qui signifie un taux d'assassinat de 75%. Philippe, en tant que juif, n'a plus le droit de travailler. Couvert par la direction de son journal, il se choisit un pseudonyme, Perret Seltienets, qui signifie le déplacé en russe, et écrit sur tout, sauf sur la politique étrangère. Malgré cela, il est limogé de l'Allgemeine Handelsblatt le 15 août 1941. Début 1942, il part pour Nimeg demander de l'aide à Jo, la pharmacienne rencontrée en Suisse. Si Annie et Ruth, du fait qu'elles ne sont pas juives, peuvent circuler sans crainte, il n'en va pas de même pour sa première épouse, Esther, qui trouvera finalement refuge à Amsterdam, et leurs deux filles. Jo Hansius n'hésite même pas. Elle va cacher Rita et Julia chez elle. Les sœurs ont respectivement 24 et 22 ans. Elles vont vivre sans presque voir le jour jusqu'en 1945, survivre au bombardement de la ville, survivre à l'occupation. Elles retrouveront leur mère, mais elles ne reverront jamais leur père. Philippe, qui refuse de porter l'étoile jaune, est arrêté par un policier hollandais le 25 septembre 1942, vraisemblablement dans la Stadhouderskade, non loin du Rijksmuseum. Il avait dit à l'un de ses amis « Pourquoi irais-je me cacher ? Je ne fais de mal à personne. Ce sont eux les coupables. » Dans un premier temps, il est déféré au poste de police, puis à la prison de Scheveningen à Amsterdam. Au bout d'un mois, il est incarcéré au camp d'Amersfoort, situé à 52 km d'Amsterdam, où il est battu et torturé. Ses mains sont brisées. Le 7 novembre, il est envoyé au camp de Westerbork. Il est si mal qu'on l'admet immédiatement à l'hôpital où il restera sous la marque S pour détenu puni jusqu'au 29 juillet 1943. C'est là qu'il a commencé à écrire son journal sur des cahiers d'écoliers, certainement apportés par des amis non-juifs autorisés à venir le voir. Ses premiers cahiers n'ayant jamais été retrouvés, son témoignage ne commence qu'au jour du 28 mai 1943. Dès le lendemain, il écrit « J'ai l'impression d'être un journaliste officiel mandaté pour rendre compte d'un naufrage. » Mais Hanicus restera un peu plus d'un an dans le camp suffisamment mal en point pour ne rien avoir à faire et par conséquent pouvoir aller partout pour tout noter sans autre raison que de témoigner de ce qui a eu lieu ici. L'utilisation du passé composé en dit long sur son propre espoir de survie, même s'il joue régulièrement aux échecs ou lit des livres en français. Avec le journal et les lettres d'Eti Hilsum, le témoignage de Philippe Mehanicus constitue l'une des sources les plus importantes sur Westerbork, l'antichambre de l'extermination. Tous deux se sont longuement entretenus dans le camp, et elle l'a un jour sauvé d'un transport. Mais là où la jeune femme fait part de ce qu'elle ressent, Mehanicus a le verbe sec, la phrase courte du journaliste qu'il continue d'être, et plus souvent qu'on ne pourrait croire, l'humour cinglant. C'est un homme de fait et de précision. Ses descriptions sont minutieuses et ses conclusions pondérées. Son ressenti est pratiquement inexistant. Sa fille Ruth dira qu'il écrivait toujours à sa mère de longues lettres postées d'où qu'il puisse être, pour lui raconter tout ce qu'il avait vu et entendu, mais que jamais il ne parlait de lui, ni de ce qu'il avait pu éprouver. si Etty Hillsum a été l'âme de Westerbork, mais Hannicus en est le chroniqueur. Toujours en mai 43, il écrit « Petit à petit chemine dans mon cerveau l'idée que je n'ai pas été envoyé ici par mes persécuteurs, mais que j'y suis venu volontairement pour y exercer mon travail. Le devoir est le devoir, et travailler vous rend noble. Noble, comment accoucher de cet adjectif en pareil lieu ? Westerbork, camp de transit, camp de réfugiés, Babel de boue, de barbelés et d'angoisse. Westerbork, baraquement surpeuplé au milieu d'un champ de bruyère où rôde l'odeur de la peur permanente. C'est en 1939 que le gouvernement néerlandais a décidé de sa construction afin d'y regrouper les juifs qui étaient entrés illégalement aux Pays-Bas. On y comptait alors 50 baraques pour 1800 réfugiés. Le 1er juillet 1942, le camp, considérablement restructuré et agrandi, passe sous l'autorité de la police de sécurité allemande et devient officiellement le camp de transit pour les juifs et les tziganes devant être déportés en Pologne. Le 14 juillet, tous les juifs de Hollande étant censés être enregistrés, la machine se met en route pour la première fois, pour le premier convoi. Le dernier aura lieu le 13 septembre 1944. Il transportera 77 jeunes enfants arrachés par les nazis des lieux où ils se cachaient. 93 convois en tout. 1000 à 3000 détenus par convoi selon les exigences des Allemands. Philippe Mehanicus écrit « Les Juifs ici me font penser à ces marchandises qui sont en dépôt avant d'être acheminées pour leur destination finale. Westerbork est une gare de triage. Les Juifs des Pays-Bas y sont amenés en train avec une seule valise, dépouillés de tout bien de valeur, pour un séjour souvent très court, avant qu'un autre train ne les emporte vers Auschwitz ou Sobibor. Ils seront 54 930 à être déportés vers Auschwitz en 68 convois. 34 313 vers Sobibor en 19 convois. D'autres trains iront vers Bergen-Belsen ou Theresienstadt. Là-bas les attendent au mieux une mort certaine, et le plus souvent immédiate. Au pire, les atrocités exercées dans les blocs d'expérimentation. » Dès le début du processus d'extermination, les consignes ont signifié qu'il fallait être rapide et discret pour obtenir le meilleur rendement possible, pour que la Hollande devienne enfin Judenfrei, vidée de tout juif, mais sans rencontrer cette fois la moindre résistance. Aussi, Westerbork est-il conçu comme le microcosme d'une ville. On y trouve des salons de coiffure, on y joue de la musique, on y danse dans des cabarets, on s'y marie, on y travaille. Dans l'administration, la cuisine, l'industrie, la poste ou l'hôpital. Un hôpital qui compte 1725 lits, 120 médecins et plus de 1000 employés. Pouvoir travailler est un gage de sursis. Des enfants naissent, d'autres vont à l'école. Des femmes fabriquent des jouets. Il y a même une synagogue. Mais Hannicus voit en cette reproduction de ville normale un décor de cinéma. Car la réalité, ainsi qu'il la révèle, est de vivre comme Job sur son tas de fumier, sans le moindre bien. La réalité, ce sont les querelles sur la stérilisation pour les mariages mixtes. La réalité, c'est le boulevard des misères, longue rue traversant le camp et menant au quai des départs et des arrivées. La réalité, c'est le bruit incessant. La réalité, c'est l'attente, une attente qui fait de ce lieu un enfer. La maison du commandant est à l'entrée, mais presque en dehors. Les Allemands n'ont pas un réel besoin de gouverner ici. D'une part, ils ont vu venir vers eux des Juifs prêts à les seconder, comme Kurt Schlesinger le fit avec le principal commandant du camp, Albert Konrad Gemecker, ou bien comme le fit Arthur Pisk, nommé à la tête du service d'ordre, poste qui va de la brigade des pompiers jusqu'à une police juive. D'autre part, ils créent un conseil juif, le Deutscher Rat, où les Juifs allemands et autrichiens règnent en maître, monte férocement la garde et instaure des priorités. Le diamantaire Abraham Asher et l'helléniste David Cohen le président. Cette nébuleuse donne l'illusion d'une population permanente de 2000 personnes. Mais rien n'est permanent à Westerbork. Eux aussi, et ceux qu'ils protègent, seront le moment venu, voués à l'anéantissement. Philippe Mehanicus écrit Les Juifs allemands ont indéniablement abusé de leur position de suprématie et continuent d'en jouer. Ils l'ont fait du jour où les Juifs hollandais ont commencé d'arriver à Westerbork. De la sorte, ils ont en fait livré les Juifs hollandais aux Allemands. Si l'on peut penser qu'en 1941, les membres de ce conseil ignoraient le véritable but des Allemands, Il en va différemment en 1942, même si vivre dans le déni est compréhensible. Et puis, c'est loin, la Pologne. Dès janvier 1943, grâce notamment à certains témoignages, l'aveuglement n'est plus possible. Mais Hanekus, qui pour sa part avait vu clair dès 1938, écrit le 4 septembre 1943. Le destin du camp de Westerbork est scellé. Hier, il a été décidé de le fermer et d'envoyer les Juifs à Auschwitz, Theresienstadt et dans le centre de l'Allemagne. Le Conseil est littéralement inondé de ces récits d'horreur, mais sa passivité fait de ses membres la cible de toutes les haines, même si l'on recherche leur protection. Ce sont eux qui établissent les listes et opèrent la sélection entre qui part chaque mardi matin à 11h et qui reste encore un peu. Ici, le temps tourne autour du deuxième jour de la semaine, au rythme des wagons. Les listes sont dressées 2 jours avant chaque convoi et connues des détenus le lundi. La nuit du dimanche au lundi est la nuit de toutes les détresses. Qui, après-demain? Qui, la semaine suivante? Tout est fragile à Westerbork. Annonce-t-on une quarantaine pour cause de maladies graves? Dès le lendemain, les malades sont déportés vers l'Est. Mais Hanekus écrit « La quarantaine est juste une farce, dans le seul but d'interrompre ou de gêner tout contact entre juifs et ariens. » Exemple d'humour subtil national-socialiste de l'Oberstabsharzmeier. Il est surprenant de constater la fâcheuse tendance des juifs à tomber malades dès qu'ils vivent les uns sur les autres. L'un des dentistes est apprécié et irremplaçable. Il part dans le convoi du 19 octobre. Aucun lieu ne permet la moindre attache, puisqu'on change de baraque n'importe quand. Aucun statut n'est permanent. Les convois partent, quoi qu'il en soit. Avec parfois, à la dernière minute, une rémission pour certains. Le nombre de juifs entassés dépassant les quotas. Philippe Mehanicus, qui n'est pas du genre à s'épancher, s'interroge pourtant longuement le 14 septembre sur le non-sens de la vie à Westerbork. La vie est une loterie. Ici, c'est un jeu qui ne rapporte rien. Et donc, pourquoi devrais-je tirer le mauvais numéro avant l'heure? Et que se passera-t-il à l'avenir? La semaine prochaine, ou bien celle d'après, le même spectacle? Pourquoi est-ce que je reste ici? Pourquoi ne pas m'enfuir? Quel destin! J'ai connu les brutes du camp de concentration d'Amersfoort. C'est assez, et plus qu'assez, pour ce qu'une vie humaine peut supporter. Et me voici encore hanté par cette pensée. Comment m'en sortir? La nuit, je m'occupe à monter des plans d'évasion, penser jusqu'au moindre détail. Non pas que je sois effrayé par la Pologne ou bien le lieu où cela doit être. Non pas que la mort m'épouvante. Elle viendra bien un jour. Mais je refuse d'être un esclave. Je refuse d'être persécuté et oppressé. Je refuse de finir dans les griffes de mes ennemis. C'est mon droit. Et je me bats pour ça. Le journal de Philippe Mehanicus s'arrête à la date du 28 février 1944 sur une note totalement pessimiste. Nous vivons dans une société pourrie. L'homme n'est bon en rien. Tout le monde ici est un petit ou un grand voleur, et même un criminel. Le 8 mars 1944, Philippe Mehanicus est transféré à Bergen-Belsen, d'où il est déporté vers Auschwitz le 9 octobre avec 120 autres personnes. D'après certains témoignages, tous ont été fusillés dans le crématoire du camp le 12 octobre 1944. Philippe Mehanicus avait 55 ans. Qui vient encore dans le silence assourdissant de Westerbork? Les enfants des écoles qui se doivent de savoir, alors que leurs grands-parents n'ont rien pu dire. Des touristes, car c'est un endroit à visiter. Des passants, à bicyclette. Que cherche-t-on entre les arbres témoins de ce camp? On s'approche petit à petit des étoiles posées sur le sol, symbole de qui est passé par ici. Car ici, entre 1942 et 1945, plus de 100 000 juifs sont venus attendre leur destin. 100 000 fois une mère, un père, un fils, une fille, un frère, une sœur, un grand-père, une grand-mère, Une tante, un oncle, un cousin, une cousine, un ami, une amie. 100 000 fois la mort dans un champ de bruyère.